Bon, les amis, j'ai réfléchi. Mm-hmm. Je pense qu'il faut faire évoluer un peu le concept de Par Jupiter.
Ah oui, bah très bien, Guillaume. Enfin, comment
Mais je veux qu'il y ait plus de rire, quoi. Du rire, beaucoup de rire, du bon rire. On va s'organiser. Ça va être beau, les enfants. Il y aura de la magie, il y aura de la beauté, il y aura de l'attention à l'autre, de l'amour.
Et il se prend pour Edouard Baird là-haut.
Non, mais écoute-le pour une fois qu'il a une idée.
Parce que la vie, je dirais, c'est d'abord des rencontres.
Oui, enfin, aujourd'hui, on reçoit Patrick Mill, l'acteur.
Ben justement, il a bossé avec Baird.
Bah, et alors ?
Ben, Alex, tu parles portugais ? Parce que j'ai pensé à un personnage sympa de brésilien qui chante avec un ukulélé.
Non, Alex a raison, là, on s'éloigne de l'invité.
Mais on s'éloigne pas du tout, il faisait Chico de Brasil, l'invité avec Baird. C'était un chroniqueur qui chantait des trucs nuls et qui faisait des bides, écoutez.
Ah, monsieur Bermondo, votre vigueur corporelle, oulala, me tue.
Ouais, c'est drôle.
Monsieur Bermondo.
Ça, ça va dynamiser l'émission, ça.
Non, mais il a fait plein de trucs bien après, Patrick Mill.
Bon, non, mais attends, Alex, essaye.
Oui, non,
vas-y.
Salut, waouh, c'est bizarre, do Brasil.
Ah, c'est excellent, c'est ça. Charline, tu vas jouer l'invité. Gérard Depardieu, bonsoir.
Attends, c'est pas un peu bizarre que je fasse Depardieu, moi.
Non, arrête de râler, et puis t'as un peu pris cet été, donc ça va le faire. Gérard Depardieu, bonsoir. Est-ce que vous connaissez Visao?
Non.
Ah, bah écoutez, il est là. Est-ce que vous voulez qu'il chante?
Oui, j'aimerais beaucoup.
Ah, bah ça tombe bien, il va chanter. Alex, vas-y, chante.
Oui, monsieur Depardieu, voilà. Tu es beau comme Patinao, tu es beau comme un exil fiscal.
Ah, c'est bravo, merveilleux. Quelle verve, quelle musicalité. Non. Allez, engagé pour la saison.
Guillaume.
Attention, t'es plus Depardieu là quand tu fais ça.
Non, mais tu t'es demandé pourquoi Edouard Baird, il en a fait un personnage qui prend des bides.
Non, je pense qu'on va abandonner l'idao.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans cette nouvelle ère post-disruptive. Voici les actualités qui ont fait l'objet d'un léger remaniement. Le maître mot du nouveau ministre de l'écologie, c'est le pragmatisme. Alors à défaut d'une ligne idéologique claire, puisqu'on ne sait pas où on va, nous sommes gouvernés par des pragmatiques.
Sauf que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Disons qu'un bon synonyme serait réaliste.
T'es un sacré cerveau, toi.
Nike a choisi un footballeur américain militant de la cause noire pour sa nouvelle campagne de pub. Colin Kaepernick posait genoux à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières envers les Noirs. Résultat, une partie de l'Amérique brûle ses baskets, alors que le but, c'était quand même d'en vendre.
C'est quoi ces chaussures, Pouillon ?
Des Nike.
Vous êtes bien là-dedans ?
Comme dans des pantoufles, je les quitte plus.
Des VTC exclusivement réservés aux femmes et conduits par des femmes seront bientôt disponibles à Paris et puis dans toute la France. Oh là là, les taxis sont très en colère.
Quoi qu'on fasse, elles nous baigeront la gueule.
Lui, il nous a dit ce matin, de toute façon, les VTC, ça ne se gare jamais, elles ne risquent pas de faire de créneaux. Fin de citation. Oh, bonjour Alex Pizorek.
Oui, c'est pas vrai, mais c'est très crédible. Merci Charlie. Autour de la table, une toute belle équipe aujourd'hui, car totalement inassortie, puisqu'il y a à 17h20, l'homme qui a une grande part de féminité, puisqu'il ne pense pas toujours ce qu'il dit, c'est Pablo Mira. Oh, bonjour.
Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume. Alors lundi, on a pu entendre Guillaume faire sa chronique sur Emmanuel Macron et ses soutiens. Bon, on connaît son orientation politique. Donc moi aussi, j'ai décidé de parler du passage difficile que traverse notre président. Mais contrairement à Guillaume, je le ferai du point de vue de quelqu'un de très beau. À tout à l'heure.
À 17h30, il est tellement extrême qu'il serait capable de manger cru un carnivore. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
C'est vrai, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la réforme des impôts. L'imposition à la source avec des Français et les Françaises.
Partout, c'est des déficits abyssaux.
Réforme de la grammaire également, enfin, tout en même temps.
Et enfin, 17h40, l'intelligence. Celle qui vient ici nous parler philosophie comme Bernard Arnault parle investissement avec une caissière du bon marché. On n'a pas le même capital de départ qu'Isabelle Sorrente. Bonjour.
Oui, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de chanteuses et de dragons.
Et voici celui qui brûle les planches sans toutefois brûler ses baskets. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis Patrick Mill.
Oui, c'est lui.
Mais oui,
il a hésité.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Vous êtes à l'affiche au théâtre de la Gaîté Montparnasse de La Moustache, une pièce de Sacha Judasco et Fabrice Dogneau qui jouent dans cette pièce d'ailleurs à vos côtés avec Jean Benguigui et Pauline Lefèvre. Je suis allée vous voir vendredi dernier. Alors, vous vous apprêtez à vivre, votre personnage en tout cas, une journée importante, c'est-à-dire que vous allez rencontrer enfin le père de votre future épouse, joué par Pauline Lefèvre. Vous allez passer un entretien d'embauche. Donc, journée importante demande, vous vous rasez la barbe car vous êtes chômeur ou...
voilà, comme tous les chômeurs, il a une barbe.
Un entretien d'embauche, il ne bosse pas depuis 3 ans et rencontre son futur beau-père.
Logique.
C'est l'occasion.
Alors, il lui dit, comment... ça, tu présenteras mieux, va te raser.
Voilà. Vous commencez à vous raser, panne de courant, rasoir cassé. Petit problème, la façon dont vous vous rasez, il reste un petit carré de moustache pile sous les narines, comme Adolphe. C'est bien, ça. Et cela conditionne donc le regard de tous ceux qui vous entourent. Patrick Mille, il y a une mécanique comique qui déclenche un engrenage assez fou, qui m'a pris moi, je dois vous avouer ce que je vous ai
dit. Alors qu'elle y allait avec des pieds d'acteur.
Je ne suis pas absolument fan de théâtre, de comédie, de boulevard, mais là, vraiment, vous m'avez convaincue, je suis rentrée toute jouasse.
C'est vrai.
Et ouais. Et donc, d'abord la
mécanique. Elle a raté son créneau. Je peux vous dire.
La mécanique comique m'a beaucoup plu aussi, qui déclenche un engrenage, qui va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux auditeurs et ceux qui ont envie d'aller vous voir, quel est le carburant, quel est le moteur qui fait que ça va loin, qu'on s'emballe, qu'on rigole très fort.
C'est une farce qui pourrait être une tragédie, c'est une farce qui pourrait être un cauchemar. Moi, je le vis comme un cauchemar. Je me retrouve avec la moustache d'Hitler sous le nez, ce qui est quand même difficile à porter. On ne va pas dévoiler qui est le beau-père. Enfin, il est joué par Jean Benguigui. Vous avez compris.
Il y a un indice. Il a
un petit indice, comme ça. Il arrive et voilà, il est très sévère là-dessus. Et donc, du coup, ça va déclencher tout un tas de quiproquos. On va de quiproquo en quiproquo. Mm-hmm. Tous les plus dingues les uns que les autres. Et effectivement, c'est une vérité. Il faut le jouer comme une tragédie et comme une vérité. Et c'est ce qui déclenche, je pense, ce rire constant des spectateurs et dont vous. Et je suis content que ça vous ait redonné envie d'aller au théâtre.
c'est pas une pièce anti-nazi, hein, faut le dire. S'il y a des nazis qui nous écoutent, ils peuvent y aller quand même. On va pas se couper d'une partie du
public. Je crois qu'ils ont 25% de réduction.
Moi, j'étais avec des nostalgiques du Reich qui étaient ravis de vous voir avec la moustache. C'est vrai. Il y a effectivement le fait que vous le viviez comme un drame, c'est catastrophique pour vous et qui crée ce côté très.
Mais surtout,
très
ça change les autres. C'est-à-dire que chacun, à la révélation et au passage de révélation de cette moustache, va aussi changer. Il y a des gens qui vont s'affirmer, en disant, mais moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ils vont se découvrir.
Ils vont se découvrir et chacun va se découvrir.
Vous ne l'avez pas testé vous-même ? Allez vous balader.
Écoutez,
dans le sentier.
Une fois, je suis sorti de répétition donc avec ce postiche, puisque. Et je me suis dit, je ne vais pas la garder dans la vie, car le regard des gens était soit extrêmement violent, effectivement, très surpris, limite à arrêt sur image, et d'autres parfois extrêmement sympathiques. Donc je me suis... Parce qu'il y en a aussi.
Oui, ça marche.
Et c'est vrai, et toute la pièce se fait à la lecture de cette moustache, et donc il y a des doubles sens tout le temps. Vous dites que vous aimez le comique s'il y a une part de vérité. Et là, quelle est la part de vérité qui fait que ça fait sens, que vous avez choisi d'interpréter ce texte, qui vous a séduit ?
La part de vérité, elle est que on dépend du regard des autres et de l'apparence. Et c'est le jeu des apparences. C'est un roman que j'adore de Philippe Rose qui est La Tâche, qui parle de ça aussi. Et donc cette part-là, que ça soit utilisé de façon comme une comédie, mais Chaplin, puisque c'est aussi l'autre pont un peu de cette pièce, cette moustache qui était celle aussi de Charlot, finalement, voilà, révèle, c'est la part du mal, la part du bien dans une moustache, et cette apparence-là m'a dit que on peut rire de quelque chose qui est une vérité, même, je dirais, philosophique, je ne sais pas, je ne suis pas philosophe.
Oh, mais moi, oui,
pas.
Moi non plus. Hein.
Bon, d'accord. Ah, bon, je croyais.
Vous avez un CAP ou pas?
Et donc, du coup, voilà, moi, je pense que c'est ça, et effectivement, le rire, s'il vient, s'il est juste, mécanique, s'il est juste pour rire, la vanne pour la vanne, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut partir, c'est d'un état effectivement réel, tragique de situation.
Et vous jouez avec les auteurs, sont vos partenaires sur scène, Sacha Judasco, Fabrice Dogniaux. Vous qui avez par exemple dans Going to Brazil, c'est votre film, vous jouez dedans. Donc d'être à la fois l'auteur, le maître d'œuvre et de jouer, qu'est-ce que ça apporte? Il y a une logique.
Il faut dire, oui. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que les auteurs changent tout le temps, c'est-à-dire le soir
texte,
et le texte, et tout d'un coup ils se disent tiens là ça a moins marché si on faisait ça et tout, donc c'était une gymnastique et un travail en plus, mais c'est agréable de les avoir avec nous sur scène plutôt que dans la salle, et un plus insupportable que l'auteur qui reste tous les soirs pour écouter son texte et comptabiliser les rires par exemple.
Là il s'implique,
on ne dénoncera personne. Voilà. En même temps, quand vous aviez joué Roméo et Juliette à l'époque, il venait très rarement
vous
en plaignez.
Vous savez, Molière est vivant, et moi je peux vous le dire, il est là tous les soirs et je le salue, c'est le patron. le Bruce Springsteen du théâtre français. N'est-ce pas ? Et donc, non, mais si vous voulez, le fait de jouer, oui, ça permet aussi de rentrer avec l'acteur et de savoir un peu où on va et de savoir si notre texte est juste parce qu'on l'incarne aussi avec les autres, quoi.
Patrick Mille, donc dans La Moustache, mise en scène de Jean-Luc Moreau avec Jean Benguigui, Pauline Lefebvre et les auteurs Sacha Judasco, Fabrice Dogniaux. C'est Patrick Mille qui est avec nous au cinéma, ça va de Mon père ce héros de Gérard Lozy à Red Dingue de Danny Boone. Et à la télévision, dans notamment Clara Scheller, mais dans Baron Noir, deuxième saison, vous jouez le candidat d'extrême droite. Donc je crois qu'on va commencer à se méfier de Patrick Mille avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Explain, et c'est un petit peu l'esprit de cette émission où on traite des sujets qu'on n'arrive pas à expliquer nous-mêmes. Patrick Mille est avec nous, il est au théâtre de la Gaîté Montparnasse en ce moment, dans La Moustache. Alex Vizorek.
Oui. Vous voulez sortir autour de la table? Bien entendu, je vais vous donner même par ordre d'apparition, figurez-vous. Il s'agira de Pablo Mira.
Ah non,
ouais, oui, c'est
bien
ça.
Sûr que je suis.
De Guillaume Meurice.
Ah, chouette, j'aime bien.
Et d'Isabelle Sorrent.
Ah, ouais.
Et les informations aussi.
Oh, bon, alors, ça,
je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Beaucoup de larmes sont tombées depuis
le journal de presque 17h17.
Tout est mal, on est en pleine inondation.
Et on commence par les titres.
Lors de sa passation de pouvoir avec François de Rugy, Nicolas Hulot a versé donc quelques larmes.
Et oui, Macron avait donc raison grâce à sa politique. Ça ruisselle.
6,5 millions de personnes ont suivi l'interview d'Édouard Philippe hier soir sur TF1.
6,5 millions de gens, dont une bonne partie, ont découvert qu'Édouard Philippe était Premier ministre.
Et des brèves ?
Oui, parce que moi, je sais comme Nicolas Hulot que vous allez pleurer, mais quand même, il y aura des brèves. Et commençons, c'est arrivé il y a très peu, cette information de dernière minute.
Oui, on apprend que Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée, quitte le palais. Et en effet, depuis 16h, Nemo est désormais seul à occuper sa niche.
C'est beaucoup de tristesse.
Passons à François de Rugy, le nouveau ministre de l'écologie, qui a expliqué sa méthode. Il veut faire marcher ensemble écologie et économie.
Oui, et après, il va faire marcher ensemble Booba et Caris. Et si ça fonctionne, il va s'attaquer au conflit israélo-palestinien.
Sur le nucléaire, lui, il promet un calendrier pour fin octobre.
Et ça, c'est très très malin de le sortir fin octobre. Il arrivera juste avant les éboueurs, les pompiers et les facteurs. Il va partir ce calendrier, c'est sûr.
Et donc il restait une place vide à la présidence de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand serait le favori.
Eh ben évidemment, tu m'étonnes, t'as une affaire judiciaire sur le dos, mais tu prends quand même une promotion. C'est quoi la suite? Édouard Philippe va être démis de ses fonctions au profit de Redouane Faïd? On ne le sait pas.
Édouard Philippe, dont le coût du déplacement dans les Hautes-Alpes a été estimé à 150 000 euros.
Mais il voyage comment exactement? À dos de Neymar? On ne sait pas.
Justement, hier au journal de TF1, le Premier ministre a demandé un effort aux Français.
LOL.
Remaniement encore, selon les informations de plusieurs médias, la démission de la ministre des Sports, Laura Flessel, est liée à sa situation fiscale.
Oui, et maintenant qu'elle a donc démissionné, elle a tout ce qu'il faut pour prendre sa carte chez les Républicains.
Puisque vous les évoquez, LR, Laurent Wauquiez a adressé un texto à tous les lycéens de sa région l'occasion de la rentrée scolaire.
Voilà. Mais donc le mec a quand même le portable de tous les lycéens de sa région. C'est le Jean-Marc Morandini d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Allez, barre à gauche cette fois sur l'immigration, Benoît Hamon a expliqué que pour lui, Macron ou Salvini, c'est la même chose.
Mais non, Benoît, on peut pas non plus laisser tout dire. Il y en a un, c'est vrai, qui a une politique absolument détestable à l'encontre des migrants, brutale et sans aucune humanité. Et puis l'autre, c'est encore pire.
Santé, à présent, avec ce chiffre terrible. Chaque jour, un bébé naît en France avec des troubles liés à une alcoolisation fœtale.
Et oui, chaque jour, un bébé naît en Bretagne.
Et cette autre étude, un adulte sur quatre dans le monde ne bouge pas assez pour sa santé.
Oui, en revanche, à 150 000 boules le déplacement, on est bien d'accord qu'Edouard Philippe bouge trop.
Beaucoup trop, on est d'accord. People toujours, donc.
Oui, alors c'est une info. La chanteuse Ariana Grande a été victime d'une main baladeuse d'un pasteur aux funérailles d'Aretha Franklin.
Pasteur qui a finalement présenté ses excuses en reconnaissant avoir dépassé les bornes.
Oui, alors c'est un peu le problème quand on vénère un type qui passait son temps à faire des appositions de mains, à soigner les malades. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a fini par les clouer à cet homme-là.
Allez, Patrick Mille et les auditeurs attendent les brèves. Hein.
Tout le monde attend les brèves, évidemment. Une mère jugée pour avoir lâché son bébé du 7e étage, c'était en Ile-de-France. Alors, selon la jurisprudence Mamadou Gassama, elle risque probablement d'être déchue de sa nationalité. Ce serait normal dans l'autre sens.
Et la dernière ?
Et la dernière, Calais. La justice a autorisé enfin la tenue d'un festival vegan. Vous allez être content, monsieur Meurice. Oui, mais ça va quand même être difficile de faire venir des musiciens s'ils n'ont pas le droit de faire un bœuf au festival vegan. C'est bien de clore sur une bonne chute.
Attendez, on vérifie. C'est validé.
Il est 17h24 à Saint-Malo, où on ne nous écoute plus du tout. Donc, merci Alex Bizarrec. Nous sommes en compagnie de Patrick Mille, qui joue en ce moment au théâtre La Moustache.
Pourquoi vous avez dit Saint-Malo? Il y a un lien? Souvent vous dites...
La Bretagne.
Ah non, j'aurais pu dire Brest.
Ah, la Bretagne. J'avais compris un peu
Le lien. Avec les gens que vous avez vexés.
Suivez un petit peu.
Parce qu'il y a des lettres. En fait.
Théâtre de la Gaîté Montparnasse, Patrick Mille, pour l'instant. Est-ce que vous savez déjà si cette pièce, vous allez la jouer en province, si les auditeurs ailleurs en France pourront la voir?
Mais là, vu comment ça commence à prendre à Paris, donc on risque de jouer un petit moment, normalement, une tournée sera prévue. Oui.
Et si vous venez à Paris, c'est jusqu'au 23 décembre pour l'instant, en tout cas.
6 janvier.
Ah, même 6 janvier, donc vous aurez l'occasion.
J'aurais bien aimé pendant les fêtes.
Eh oui. Alors, abordons ce premier sujet, Patrick Mille. La nomination du nouveau ministre de l'écologie replace le pragmatisme au cœur de l'action du gouvernement. Qu'est-ce que le pragmatisme en politique? Est-ce que c'est ce truc très utile quand on n'a aucun socle idéologique? Quand on ne sait pas où on va, mais qu'on y va quand même? Il y a un indice. Côté pratique, comment ça se traduit dans la bouche du politique?
Le discours, monsieur le ministre. Je vous l'ai déjà dit, il faut structurer légitimité, lucidité, efficacité.
Vous m'aviez dit responsabilité, unité, efficacité.
Oui, oui, mais non. Ce qu'il faut, c'est marteler, enfoncer le clou. Non, tout ça, c'est de la matière molle. Alors, légitimité, tac, 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 tac. Unité, tac, tac, tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac.
On est fan de Thierry Lhermitte dans Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Alors, en succédant à Nicolas Hulot, François de Rugy a dit qu'il allait mener une politique pragmatique. On n'a pas bien compris, nous, ce que ça voulait dire. Patrick Mille, je ne sais pas, comment est-ce que vous l'interprétez, vous, ça nous l'expliquer.
C'est-à-dire, François de Rugy, il était à la primaire socialiste, après il est devenu, on ne comprend pas bien, il était écolo, il a arrêté d'être écolo, il est devenu socialiste écolo, puis après il est devenu LREM.
Ouais.
Je dis LREM.
LREM.
Mais au même temps, au perchoir, donc il fallait gérer plusieurs choses. Écoutez, je suis pas sûr que ça soit la meilleure nouvelle pour l'écologie.
Oui.
En vrai, quoi.
Et donc,
pragmatiquement pour lui, sûrement bien.
C'est ça. Pragmatique, c'est ça. Ça vous sert, vous?
Oui.
C'est pas mal aussi comme définition.
Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que si on dit vous êtes un acteur pragmatique, ça vous ferait plaisir?
Ah non, pas du tout, non. Et je le crois pas, vu ma carrière. Vous l'avez cité d'ailleurs au début.
Ça va de Chico de Baya à Hitler.
Gros manque de pragmatisme.
Et est-ce que vous vous dites, tiens, finalement, quelle ligne à la politique d'Emmanuel Macron, quelle ligne à le gouvernement?
Aucune.
Où est-ce qu'on va? C'est ça.
C'est pragmatique.
Ah, on est plusieurs à penser ça. Alors.
Oui, j'ai l'impression en tout cas. On est un peu sur le même sentiment, mais je pense que c'est un sentiment général, non?
En ce moment. C'est pas rassurant.
À part les gens de LREM.
Oui, ça
nous, on donne pas notre avis dans l'émission, donc
non, jamais. Mais, non. Mais est-ce que c'est un peu angoissant? On se dit, non, moi,
je
ne
comprends pas, très
va,
honnêtement, c'est... je ne ouais. comprends pas par rapport à l'écologie, qui est un sujet primordial et mondialement primordial, mm-hmm. que tout d'un coup, les lobbies, je trouve que par rapport à l'agriculture, tout ça, et je comprends la décision de Nicolas Hulot, qui arrive tardivement, mais qui était nécessaire pour faire un électrochoc. Donc là, très, très, très pragmatiquement, je vais vous répondre que je trouve qu'on est en dessous de tout sur ce sujet-là.
Mais après, c'est une astuce rhétorique. Ils disent pragmatique en disant les autres sont tous des utopistes.
On peut pas.
Donc, nous, on est dans le réel, etc. C'est une astuce rhétorique qui permet d'exclure tous les autres.
Oui, mais on peut pas ménager la chèvre et le chou.
Ah, attention, parce que je suis d'accord avec vous.
L'économie de marché et l'écologie. Donc à un moment, il va falloir choisir et faire des mécontents. Le problème, c'est qu'on veut toujours ne pas faire de mécontents parce qu'il y a des élections et qu'on veut garder son poste.
Qu'on perde la chèvre ou le chou, c'est pas écolo. Dans les
en
deux
plus,
cas.
Donc, de toute façon.
De toute façon, si on n'est pas écolo, on va perdre la chèvre et le chou.
Et le chou.
Effectivement.
Non, mais c'est comme les migrants, c'est pareil. Quoi. Mm-hmm. Je trouve que c'est quand même hallucinant que, après l'histoire de ce sans-papier qui va sauver un bébé, mm-hmm. n'oublions pas que c'est 4 jours après qu'il y a l'Aquarius. Bon, je trouve ça bizarre.
Ouais, ouais. C'est, non, là où,
c'est pas bizarre, c'est pragmatique.
Voilà.
C'est ça. Il est allé chercher un bateau sur un balcon. Il y a un lien entre les deux.
C'est là où vous avez commencé à
dégringoler.
Ouais, à vous dire.
À me
là,
dire
y a
c'est dommage parce que
pas
pourtant
tout.
Au départ j'étais très conquis, mm-hmm. pour tout vous avouer. Oui.
Et là, ça a été le déclencheur.
Et au bout de 15 jours,
ah ouais, en fait, ça a été assez. Sinon, il avait marché au Louvre, il a dit j'arrête. Il a dit je n'y crois pas.
Patrick Mille qui est au théâtre en ce moment, à la Gaîté Montparnasse. Et il est 17h29 sur France Inter. C'est l'heure de passer la parole à celui qui aurait voulu être footballeur.
Ouais.
Mais comme il était mauvais, il a préféré devenir un mauvais polémiste. Oui. C'est vous, Pablo Mira. Et Pablo, cet après-midi, vous revenez sur le récent sondage IFOP, justement, qui donne Emmanuel Macron à seulement 31%. D'opinion favorable, c'est peu.
Oui, Charline, Houdini, David Copperfield et Sylvain Mirouf peuvent aller se rhabiller. Emmanuel Macron a bluffé tout le monde avec son nouveau tour de magie consistant à faire disparaître sa popularité. Elle est où la popularité? Elle est plus là, il y a un piano à la place. Alors, 10 points de perdu en à peine un mois, le président est semble-t-il au bord du gouffre. Désormais, il n'a plus qu'à se pencher et allumer une lampe torche pour entrevoir Jean-François Copé en train de jouer au mystère de Pékin avec François Asselineau. Au passage, c'était Chowling, le meurtrier, Alex.
Oui,
et d'après une autre enquête d'opinion, 68% des Français pensent que le chef de l'État mène une mauvaise politique économique. Et là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. On croit rêver, les gens n'y connaissent rien. Dites-moi une seule mauvaise décision d'Emmanuel Macron en matière économique. Allez-y, donnez-moi une seule, vraiment.
L'ISF, la fin de l'ISF, par exemple?
Non, non, j'y crois pas, non. Non, Bruno Le Maire, à la rigueur?
Bon, ouais,
à la rigueur. Allez, ce sondage-là, donc en particulier, est peut-être pas si déconnant, mais quand même, seulement 31% d'opinions favorables. Je suis désolé, mais moi, ça me paraît louche. Ces mauvais chiffres sont bien sûr, alors peut-être imputables au départ fracassant de Nicolas Hulot, hein, on l'a évoqué. Mais moi, je vous le dis, attendez un peu de voir quand même à l'œuvre François de Rugy. Lui, pour le coup, c'est un vrai écologiste, et je parie qu'à chaque Conseil des ministres, c'est lui, et de loin, qui émettra le moins de CO2 avec sa bouche. De façon plus générale, moi, je conseille à chacun de ne pas donner trop d'importance à ces pseudo-sondages. Macron peut sembler impopulaire. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est une question de contraste. Regardez, petite expérience. Imaginez Macron à côté de Christine Angot. Vous voyez, et comme par magie, Macron redevient le Nelson Mandela français. C'est notre petit prince du rail. Et pour comprendre que nous avons le meilleur président de tous les temps...
Ne riez pas de votre blague.
Je rigole, les guillemets.
Ah, d'accord.
Suffit de pour comprendre qu'on a le meilleur président de tous les temps, suffit de voir factuellement ce qu'il a déjà réalisé, et c'est colossal. Il a quand même supprimé l'ISF, une mesure en faveur des pauvres. Oui, mais pourquoi il l'a fait? Pour que ces pauvres ne soient pas impactés par cet impôt, hein, si un jour il devenait riche. Vous voyez, on ne le souligne jamais assez, mais Macron, c'est aussi un président qui a du cœur, bien plus que la plupart d'entre nous. Je suis désolé, parce que c'est facile, oui, d'envoyer 20 € au Téléthon une fois par an, mais personne ici ne pousserait la solidarité jusqu'à donner son 06 à Christophe Castaner. Autre qualité, et non des moindres, c'est le courage. Le courage du bonhomme. Je vais être vulgaire, mais il a quand même deux choses dans son caleçon que peu de politiques possèdent. Je parle bien sûr de Benjamin Griveaux et de Richard Ferrand. Christophe Castaner, tout ça est la même chose. Alors, comme la personnalité du président est inattaquable, ses détracteurs accusent la politique de Macron d'être un échec. Et là encore, Fadaise. Un échec, c'est par exemple une matinale radio concurrente qui n'est suivie par personne. Alors non, non, je ne m'abaisserai pas à citer un nom, évidemment. Alors que l'échec de Macron, lui, est suivi par tout le monde, pour le coup. Je vais vous dire, si Macron est aussi bas dans les sondages, c'est parce qu'il est exigeant. Alors c'est sûr, ça râle dès qu'il s'agit de faire des efforts en France. De toute façon, dans ce pays, tout le monde a un rêve d'être comme Adil Rami, champion du monde sans mouiller le maillot. Hein, oui, Alex, pardon, tout en couchant avec Pamela Anderson, bien sûr. Vous êtes lourd, Alex, dans vos réflexions que j'invente pour vous. Donc moi, je vous le dis, les Français ne se rendent pas compte à quel point président, c'est un poste ingrat. Personne ne vous remercie alors que vous abattez un travail de titan dans le seul qui puisse comprendre ce que vit Macron au quotidien. C'est sûrement le caviste de Gérard Depardieu. Oui, mais Pablo et le chômage, pourquoi il ne baisse pas le chômage, Pablo? Mais c'est pas sa faute à Macron, les loulous. Je veux dire, s'il y a bien une personne qui lutte pour que les Français et les Françaises retrouvent du boulot, c'est bien lui. Alors après, il n'y peut rien s'il n'y a pas assez de postes de consul à Los Angeles. Au passage, moi je vous le dis, l'épisode Philippe Besson qui obtient un poste aux États-Unis, ça m'a pas choqué, Guillaume. Oui, il renvoie l'ascenseur à quelqu'un qui a écrit un livre à son effigie. Et alors? Et alors? Il aide les copains! Hein, vous y voyez du vil népotisme. Moi, j'y vois un noble renvoi d'ascenseurisme avec un soupçon d'aller tous vous faire en culisme. Pour conclure, qu'on le veuille ou non, avec Emmanuel Macron, il y a enfin un pilote dans l'avion France. Un avion dont le vol durera encore 3 ans et demi et sans escale. Et 3 ans et demi, eh ben, c'est pas long. C'est pas long quand on peut s'offrir une petite classe business. Allez, salut.
Merci Pablo Mira, éditorialiste à Vanneurs Actuels. On est heureux de vous écouter gratuitement, mais vous dites aussi des choses contre de l'argent au théâtre Trévise. Vous reprenez à partir du 11 septembre.
On a choisi une date consensuelle.
Tous les mardis.
Grand public.
Merci Pablo. Tandis qu'au théâtre de la Gaîté Montparnasse, c'est Patrick Mille que vous pouvez retrouver dans La Moustache. Il est avec nous jusqu'à 18h. À vous, chante Angelico sur France Inter, c'est la playlist à programmation musicale de Djoubaka. C'est Patrick Mille, notre invité, et à côté de vous, Patrick, il y a Guillaume Meurice.
C'est vrai, je vais vous parler prélèvement des impôts à la source aujourd'hui. parce que je vous cache pas qu'on a besoin de pognon. Déjà, il y a Édouard Philippe qui prend des avions à 150 000 boules, hein, pour aller dans les Hautes-Alpes, on l'a dit. Donc, faites ruisseler. Il déconne pas, Doudou, quand il se déplace. Quand il se lève la nuit pour aller pisser, il prend un scooter plaqué or avec une escorte. Donc, on est un petit peu serré au niveau budget. Et puis, il faut payer, bah, voilà, le service public. Par exemple, le cachet des chroniques d'Isabelle Sorrente. Hein, se fait payer en boulgour, mais faut quand même payer. Hein. En même temps, la croisade contre les escalators, les trottinettes ou les cravates à motifs, bah, ça coûte un pognon de dingue. Donc, prélèvement de l'impôt à la source. Moi, je suis allé prélever l'opinion du peuple de France à la source ce matin. Dans la rue. Alors j'ai choisi un quartier où les gens sont imposables, pour pas prendre de risques. J'ai fait 7e, 8e, 9e. J'ai pas dit qu'ils payaient tous, hein. J'ai dit qu'ils étaient imposables. D'ailleurs, on va régler tout de suite le problème des impôts trop élevés.
On fait payer les riches, mais c'est bien gentil ça. Mais premièrement, quand il n'y aura plus de riches, il n'y aura que des pauvres.
Mais si les riches partagent un peu plus avec les pauvres, non, peut-être qu'ils seront un peu moins riches et les pauvres un peu moins pauvres.
Oui, mais attendez, c'est le problème de la redistribution. Et il y a des risques. Moi, je fais beaucoup de bourses, mais il m'est arrivé plusieurs fois de perdre 100% de ma mise.
Et ben voilà, on pense aux pauvres qui perdent tout, d'accord. Mais le riche qui prend des actions Eurotunnel, eh ben on n'en parle jamais. Donc heureusement que je suis là à un moment donné pour aller dans ces zones sinistrées par ce fléau des mauvais placements boursiers. Si je chope pas un Pulitzer avec ça, ça sera bien malheureux. Alors puisque je l'ai sous la main, parlons quand même placement et éthique, parce que sinon vous allez encore chouiner comme des gauchiasses.
Est-ce que vous faites attention sur les entreprises sur lesquelles vous investissez au niveau éthique par exemple?
Oui, non, mais comme je...
Plutôt oui ou non alors?
Non, pas spécialement, mais j'investis pas n'importe où non plus.
Par exemple, si c'est une usine d'armement ou...
Bon, ça, on m'en fout. Hein.
Voilà, donc on est plutôt sur un non, quand même, si on veut résumer. Mais moi, j'aime bien le côté décomplexé, quoi. C'est vrai que sur l'échelle de la déontologie, on est quand même entre Thomas Thévenoud et Alex Vizorek. Folichon. Non, mais c'est pas folichon, mais j'aime ça. J'aime ça. Le côté français. Mais le côté français, c'est quoi également?
Je trouve qu'on a raison de commencer à faire des réformes. Il serait temps. Tout le monde les veut, mais dès qu'on s'attaque à un truc, il n'y a plus question. Non, mais on est ingouvernable, insupportable. Et il a raison de parler des Gaulois réfractaires aux réformes. Hein.
Vous ne râlez jamais, par exemple.
Hein?
Non, je posais une question comme ça, au cas où, parce que je la sentais bien, bien zen. Elle avait dû prendre des cours de yoga avec Samina Seri. Alors, elle était favorable, hein, à la réforme. Elle veut qu'on réforme, comme vous venez de l'entendre. Mais elle ne veut pas que son argent soit utilisé n'importe comment.
Je l'écoute tous les jours sur A8, la matinale. Là. Elle a un peu la grosse tête. Hein.
Charline?
Elle est insolemme. Alors, elle me donne de l'urticaire.
Ah oui, carrément. Ouais.
Ah oui. Mais elle m'énerve. Je n'écoute que France Inter comme radio. Mais quelquefois, alors qu'on est Nicolas Lemorand aussi, il me gonfle, il est tellement prétentieux.
Oh. En fait, vous écoutez France Inter, mais vous n'aimez personne à France Inter.
Mais si.
Qu'est-ce que ça serait si elle pouvait pas blairer France Inter? Eh ben, on la salue, puisqu'elle doit nous écouter, je pense.
Mais oui.
Elle est en train de se dire, putain, ils me font chier. Le débile de Meurice avec Ramiro Mira, il me gonfle. Bisous, madame. Cœur avec ta redevance. Alors bon, là, on avait l'aspect donc favorable à la réforme et on a des personnes qui sont contre, notamment ce monsieur.
Non, je suis contre. Je suis contre parce que je pense que c'est encore une atteinte de liberté.
Peut-être que ça va limiter la fraude fiscale aussi.
Vous savez, la fraude fiscale, d'abord, il en faut un petit peu, je pense, parce que vous savez, l'économie en liquide, etc., ça peut aussi retourner un pays.
Faut de la fraude fiscale, selon vous?
J'aime pas trop le son de morale. Je dis pas qu'il faut attendre, moi je paye mes impôts, je fais tout bien, je veux dire, je suis un bon citoyen. Je précise que je suis avocat fiscaliste.
Ah oui, il est avocat fiscaliste, d'accord. Donc évidemment, ça l'arrange tout ce qui est fraude fiscale.
C'est vrai
que si t'es urologue, tu vas dire, les syphilis, il en faut. Je pense qu'il en faut. Faut être ouvert au niveau de tout ce qui est ch'touille et irritation au niveau de l'urètre. C'est logique, donc la fraude fiscale, c'est carrément pas son problème. Et c'est même pas pour lui un problème de société. Hein. Je rappelle les chiffres, 80 milliards qui échappent chaque année au fisc.
Par contre, je pense que la fraude sociale est peut-être encore plus élevée. Et là, c'est peut-être plus grave.
Qu'est-ce que c'est la fraude sociale?
Bah, ça veut dire les gens qui perçoivent des allocations alors qu'ils ne méritent pas parce qu'ils peuvent travailler, parce que si, parce que ça.
Vous pensez que ça, le chiffre, il est supérieur à la fraude fiscale?
En tout cas, il est extrêmement élevé, sauf que c'est beaucoup moins politique de le vendre.
Ouais, bah vendons-le quand même. Alors, du coup, la fraude aux allocs est estimée à 250 millions par an face aux 80 milliards. C'est un peu le budget coiffure de Michel Houellebecq comparé à celui de Guy Lagache. Voilà, pour vous donner l'idée. Donc, si on taxait l'égoïsme et la connerie, on règle tous les problèmes de déficit public en 15 jours.
Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter, que cela vous énerve ou pas. Heureusement, Patrick Mille est là pour sauver les meubles, ce qu'il en reste. Patrick Mille qui est au théâtre, hein, dans La Moustache, une pièce de Sacha Judasco et Fabrice Dogneau, et qui sont sur scène aussi avec vous, Patrick Mille. Alors, aux États-Unis, pendant ce temps, on brûle des baskets, des Nike, pour protester contre la marque qui a choisi Colin Kaepernick pour la représenter. C'est ce joueur de football américain qui est connu pour avoir boycotté l'hymne, le genou à terre, pour dénoncer la violence policière envers les Noirs. Alors, brûler des baskets, une réaction, somme toute, elle est encore assez mesurée dans l'Amérique de Trump.
Non-violence, persuasion, grâce.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce?
On va aviser. Mais aviser dans le calme. La tête reposée. Se méfier de nos nerfs.
Ne nous fâchons pas, de Georges Lautner. Alors, Patrick Mille, voilà que les ricains se mettent à brûler des baskets. Quelle réaction ça déclenche chez vous, ça, quand vous voyez ça?
Mais c'est effrayant. Moi, c'est surtout certains ricains.
Oui, bien sûr.
Ceux qui ont voté pour Trump.
Ouais. Mm-hmm.
Voilà, c'est cette Amérique-là, ça montre encore le fossé entre ces deux Amériques. Mm-hmm. Mais après, Nike, c'est courageux de leur part de défendre un sportif engagé et qui a eu sûrement des raisons de le faire.
Mmh. Qui n'a plus d'équipe et qui est attaqué en justice par la Ligue nationale de football américain, que lui accuse d'empêcher de poursuivre sa carrière. Et malgré tout ça.
C'est courageux et assez malin quand même, surtout. Ouais.
C'est très malin. Ouais. C'est vrai que c'est. Bon, alors le sujet, il est complexe parce qu'on parle quand même d'une multinationale. Mmh.
Soyez pragmatique, Patrick.
Exactement, c'est ça. On est dans le sujet.
Je suis pas sûr que ce soit si malin parce que.
C'est complètement malin. On parle que de ça. La preuve, on en fait
alors,
un sujet.
Alors on en parle, mais il y a la moitié des gens qui ont. Plutôt prendre une paire d'une autre marque, du coup.
Oui, mais dans le monde entier. Dans le monde entier.
Pour une paire achetée, une paire brûlée. C'est un bon slogan.
Surtout qu'ils vont être obligés de racheter des godasses.
Je voudrais poser la question inverse. C'est-à-dire, imaginons, prenant une marque, disons Massimo Dutti. Si demain, c'est Éric Zemmour qui est choisi comme référent, est-ce que vous ne brûlez pas vos vêtements Massimo?
Alors, il y a déjà des vêtements Éric Zemmour, je crois. Il a sorti une ligne de
brûler, non. Arrêtez de les acheter.
Mais non, mais voilà. Mais donc, on est juste dans le sens inverse d'une forme d'idéologie.
C'est vrai. C'est ce qui se profile aussi. La Trumpisation au Brésil, qui est un pays que vous suivez de très très près. Vous continuez à suivre cette actualité.
Oui, et d'ailleurs, je suis très très peiné de ce qui s'est passé. C'est une tragédie avec le musée, plus grand musée du Brésil, et donc d'Amérique du Sud.
Isabelle Sorrente va y revenir.
Qui a brûlé complètement et qui est une catastrophe. Et en même temps, c'est une métaphore sur ce pays, puisque c'est un pays qui oublie un peu sa mémoire. Et là, on l'a vu en direct, quoi. Mm-hmm. Et ça, c'est très très troublant.
Oui. Alors, s'afficher là sur les réseaux sociaux en brûlant des baskets, c'est une attitude totalement décomplexée de la haine de l'autre aussi, on peut dire. Ce thème de complexé ou décomplexé, c'est un thème majeur de la pièce La Moustache. Est-ce qu'elle est incarnée par des personnages? C'est un des thèmes de cette pièce, d'être complexé ou décomplexé vis-à-vis de la moustache du Führer.
On a par exemple ce gardien joué par Sacha Judasco, qui était très très drôle, mais en même temps effrayant, qui lui rentre complètement dans la brèche en disant « Mais j'imaginais pas que vous étiez comme ça, mais vous êtes un mec formidable. » Et moi, je lui réponds « Mais non, mais attention, moi je suis pas Front National. Ah, mais moi non plus, ils sont beaucoup trop à gauche. Je pouvais pas savoir que vous aviez des couilles comme ça. » Et là, le gars, il devient son héros, mm-hmm. au gardien. Et le gardien va faire des choses, d'ailleurs, à l'issue de cette mm-hmm. révélation, des choses extraordinaires.
Voilà
très,
pourquoi
très
cette
gênante.
Pièce va parfois loin. Tandis que votre personnage, vous, c'est un personnage qui veut fâcher personne, c'est le en même temps total.
Ah, il est totalement en même temps, lui. Mm-hmm. Il est totalement en même temps et en même temps.
Au carré.
Oui, mais après, il se retrouve avec cette chose qui est là. C'est la personne qui a le moins d'autorité. Un pitch, c'est simple comme ça, c'est la personne qui a le moins d'autorité qui se retrouve avec, sur le visage, la chose qui en impose le plus. Mm-hmm. Et qui représente l'autorité maximale, excessive, monstrueuse. Et ce pauvre garçon se retrouve avec cet appendice, cette chose, et qui fait que ça change, ça bouleverse sa vie, parce qu'on le regarde autrement, on le prend pour ce qu'il n'est pas, lui-même va révéler les autres, et voilà. Donc ça va, c'est un combat qu'il va mener, il va se rendre compte de plein de choses, et puis il va se rendre compte aussi que cet appendice, le regard qu'on porte sur lui change, est tellement bouleversant mm-hmm. qu'il va aussi peut-être s'en servir à un moment, mais sans dévoiler.
Bien sûr. Ça. Vous avez jusqu'au 6 janvier au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, en tout cas. Isabelle Sorrente est à nos côtés à 17h45
Charline.
Sur France Inter.
Alors, 800 ans avant notre ère, vivait en Égypte une femme nommée Sha-Amun Ensu, qui était la chanteuse sacrée du temple d'Amon et de Nout. La prêtresse chanteuse était sans doute elle-même considérée comme une sorte de divinité, puisqu'à sa mort, elle a été momifiée et conservée dans un sarcophage où son corps est resté intact durant près de 3000 ans, jusqu'à dimanche dernier, très exactement, puisque Sha-Amun Ensu a brûlé dans l'incendie du Grand Musée d'Histoire Naturelle de Rio. Vous le savez, cet incendie a ravagé l'une des plus belles collections d'histoire naturelle et la belle Sha-Amun Ensu n'est pas la seule à avoir disparu. Une sorte de dragon, une espèce gigantesque de dinosaure a péri dans les flammes avec elle. Il s'appelait Maxacalisaurus, une espèce qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres de long. Son squelette, qui avait traversé 80 millions d'années, a lui aussi disparu dans l'incendie. C'est un peu comme si la Khaleesi et son dragon, ou tout du moins des formes éternelles de notre imaginaire, des grands archétypes venaient d'être réduits en cendres. Et je comprends les gens qui ont pleuré lors de la manifestation de lundi à Rio, en entourant le musée. Je comprends leur colère et leur indignation. Parmi tous ces rêves perdus se trouvait aussi l'un des plus vieux visages humains, celui de Lucia, une femme de 12 000 ans. Au département des Antiquités se trouvait une fresque de Pompéi représentant deux oiseaux de paradis. Vous voyez le genre de fresque que les étudiants contemplent avec effroi sur leur livre de latin. Ces oiseaux, ces fossiles, ces dragons et la déesse ont donc survécu aux guerres et aux éruptions volcaniques, mais ils n'auront pas survécu aux coupes budgétaires et à la rationalisation. Comme quoi, il y a des choses qui survivent à tout, mais pas à l'obsession de la rentabilité. Puisque c'est bien cette obsession de rentabiliser qui a conduit les pouvoirs publics brésiliens à laisser le musée se délabrer, ce qui pose au moins une question. Si l'obsession de la rentabilité est en train de tuer la planète, c'est-à-dire les écosystèmes visibles, mais aussi l'écosystème intérieur, c'est-à-dire l'imaginaire, les divinités et les dragons, l'obsession de la rentabilité nous fait-elle du bien ? Un système qui est en train de tuer à la fois l'environnement mais aussi la richesse de l'inconscient collectif peut-il faire du bien aux êtres que nous sommes ? Vous me direz que la réponse est évidente, Guillaume. Et que, pour une fois, nous serons d'accord tous les deux. Quelque chose qui détruit à la fois mon environnement et ma psyché, c'est quelque chose qui ne me fait pas du bien. C'est même quelque chose qui est en train de me tuer. Mais bizarrement, on a l'impression que tout le monde est en train de dire « Cette obsession de la rentabilité, oui, ça fait du mal à la terre. Oui, les animaux crèvent. Oui, ça rend l'air irrespirable. Oui, ça fait du mal à l'imaginaire. Oui, ça rend les gens un peu dingues. Oui, les musées flambent. Oui, la vie n'a plus de sens. Mais à part ça, c'est rentable. Alors pourquoi ? Pourquoi quelque chose qui est en train de tous nous tuer de l'intérieur et de l'extérieur est-il considéré comme rentable ? En vertu de quoi ? Peut-être en raison du mépris des choses mystérieuses. Parce que rien de plus mystérieux qu'une momie ou qu'un dinosaure. Rien de plus mystérieux que la mémoire, rien de plus mystérieux que l'esprit humain. Et vous voyez, c'est drôle parce qu'au moment où les trésors de l'un des plus beaux musées d'histoire naturelle du monde sont réduits en cendres, nous avons en France tout ce débat sur l'homéopathie et sur l'effet placebo. Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir si l'homéopathie ça marche, mais si c'est scientifique. Et si ça n'est pas scientifique, eh bien restrictions budgétaires, hein, comme pour les musées. Mais peut-être que si au lieu de parler d'effet placebo, on osait parler de pouvoir de l'esprit, d'imagination et de liberté, on pourrait commencer à récupérer ce pouvoir qui nous fait peur. Alors par pitié, soyons fantaisistes et défendons la magie. Sha Amun Ensu et Maxa Kalisaurus, vous qui avez connu les pires changements climatiques, vous qui traversez les millénaires sur des barques invisibles, où que vous soyez, priez pour nous.
Isabelle Sorante, merci pour cette belle chronique. Vous êtes plutôt utopiste, hein, pas trop pragmatique. Hein,
ah, moi je suis plutôt pour la magie, je ne suis pas pragmatique du tout.
C'est intéressant cette histoire au Brésil, parce que ça pose vraiment la question de faut-il laisser la culture aux pauvres qui ne savent pas s'en occuper, ils la font brûler. Je pense que c'est vraiment une question
probablement.
Faut, voilà,
Patrick Mills, grand musée d'histoire naturelle de Rio, j'imagine que vous l'aviez déjà visité.
Oui, non, c'était magnifique. Ouais. Je n'avais pas vu toutes les salles parce que c'était très grand, mais c'était un endroit incroyable, incroyable. Et surtout, cette histoire-là, au-delà du Brésil, de l'humanité, oui, comme vous avez dit.
C'est notre histoire à tous. Ouais.
Donc celui-là est gravé
dans l'équivalent du Louvre. Mais en tout cas, les Louvres, l'Antiquité, les parties des Antiquités, c'est cet équivalent-là de richesse qui a brûlé.
Patrick, et on embrasse les assureurs aussi du Brésil.
On prie pour eux. Merci Isabelle Sorante d'avoir évoqué ce sujet avec Patrick Mill. Et on va aborder ce dernier sujet, toujours en compagnie de Pablo Mira, d'Alex et Guillaume.
On est là, bien sûr.
Alors, attention.
Attention. Dernier sujet.
Prendre un taxi la nuit.
Ouais.
Je vous le dis, c'est pas ce que préfèrent les femmes, hein, pour leur sécurité ou parce qu'elles s'exposent parfois à certaines remarques. Alors, une application VTC propose aux meufs d'être conduites par des meufs. La start-up démarre en septembre à Paris, dans l'espoir de s'étendre aux grandes villes. Et alors, pour la sécurité des hommes, parce que parfois, il y a des problèmes.
Bon, on oublie la tentative de viol et on est quitte. Allez, oust.
Tu vas quand même pas laisser une femme rentrer à pied dans cet état ?
Bah si. J'ai des livraisons à faire encore.
Dans cette tenue ?
Oh putain.
Allez, démarre. Je vais te faire couler un bain.
Absolument fabuleux, le film de Gabriel Aguillon avec notamment Nathalie Baye. Alors je me disais, tiens, dans la pièce La Moustache, il y a Pauline Lefèvre. C'est la seule femme parmi vos cinq personnages. Est-ce que vous êtes inquiet de savoir comment elle rentre si elle prend le taxi à la sortie du théâtre?
Ah oui, tout à fait. Je lui dis toujours, mais comment tu rentres, Pauline?
C'est un bon invité. Parce que vous prenez le sujet à bras le corps. Voilà.
Mais alors, vous rigolez. Mais
S'il faut ramener Pauline le soir, je peux être dispo, je suis dans le coin.
Mais moi, je ne peux pas. Moi, mais ma femme le prendrait mal.
La pièce démarre à 21h. Bah oui, puis après, vous allez dîner. Bah oui, mais alors, moi, je suis inquiète pour Pauline. J'y pense.
On l'appelle.
Il y a cette appli qui va sortir.
Mais ça commence le 12 septembre.
Et c'est justement pour qu'elle évite les gros lourds comme Alex. Il y a là une appli
qui vient de lancer son propre service de chauffeur privé.
De harcèlement.
Uniquement d'actrices qui sortent le soir. Il fera tous les sorties de théâtre.
Alex Vizoricoeur.
Ça sera un bus d'actrices qui les ramènera chacune. Ça se terminera à 6h du matin.
Si on peut aider.
Je vais être plus pragmatique dans ma question. Est-ce que là, on assiste à une forme de ségrégation des genres finalement? Est-ce qu'on doit en passer par là? Comment vous trouvez cette idée?
C'est mignon, ouais. Ça s'appelle Colette, c'est rigolo. Après, si les filles se sentent bien, moi je peux comprendre que tout d'un coup on n'ait pas envie de rentrer, elle peut avoir une mauvaise aventure ou tout simplement un garçon un peu relou ou un taxi un peu lourd qui est. Donc c'est bien, c'est pas grave ça, non?
C'est un symptôme quand même, ça veut dire que la société elle pue un peu du cul quand même, non?
Oui, mais ça fait un
oui, d'accord, non, mais je voudrais qu'on soit bien d'accord là-dessus quand même.
Et donc est-ce qu'on met un pince-nez ou est-ce qu'on lave le cul? C'est ça la vraie question.
Voilà la vraie question.
Comment est-ce qu'on est arrivé?
C'est joli, hein, on est sur France Lyrique.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là en parlant de ce troisième sujet? Est-ce que c'est aussi une façon d'encourager peut-être les femmes à exercer ce métier? C'est agréable quand vous avez, les garçons, quand vous avez une femme chauffeur de taxi?
On adore, c'est super.
Déjà, on met la ceinture parce que pour des raisons évidentes, de précaution.
Et après, moi, je la suis. Après, quand elle part, je la suis moi-même à pied.
C'est pour rire, Charlie.
Plus vous parlez, plus ça fait de la thune pour Colette.
J'ai monté à l'arrière du scooter de Charline Van Lacker. Et j'étais très à l'aise.
Mais oui, parce que nous, on a une conduite souple quand même, les femmes.
Vous avez mis 4-5 étoiles ou pas à l'aise?
Mais non, mais on ne veut pas aller plus vite que l'autre, on ne s'énerve pas.
Je pense pas que ce soit.
Il n'y a pas une virilité qui passe dans la conduite.
Isabelle Sorrente.
Elle est
attirée. Je compte sur votre avis.
Elle est
ouais, alors là, pour le coup, je suis un peu perplexe. Moi, pareil, je trouve que ce n'est pas très, très grave. Enfin,
ah non, mais il n'y a pas question de grave ou pas grave. C'est une bonne idée.
Oui, c'est une bonne. Moi, je sais que ça m'a toujours. J'étais toujours contente, en tout cas, quand je tombais sur Uber, sur des chauffeurs femmes, parce que c'est rare, on discute, donc ça, c'est agréable, voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne idée.
Eh bien, vous ferez attention à comment Pauline rentre chez elle, Pauline Lefèvre, après la pièce ce soir. Oui. Et vous lui dites qu'on s'inquiète. Mais
je
oui,
vais
bien
lui
sûr.
Conseiller Colette. Ou Vizorek.
Dans un premier temps, jusqu'au 12 au moins.
Patrick Mill avec nous. Alors attention, parce qu'on a un auteur, réalisateur, interprète formidable. Alors il faut un sketch à la hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire?
Et un rôle à la hauteur pour terminer l'émission. Vous en rêviez. Le rôle de Gérard Collomb. Bien entendu.
Le rôle d'une vie. Hein.
Là, vous avez
Attends, physiquement, il faut que j'y arrive déjà un petit peu comme ça. Il est un peu comme ça. Voilà.
Vous allez rendre visite.
C'est visuel, il l'a.
Il entend le personnage. Ouais. Vous allez rendre visite à un commissariat dans le Val d'Oise parce qu'il y a un problème qui n'est toujours pas réglé et à un moment, il faut se rendre sur place.
Petit, où te caches-tu?
On compte jusqu'à 10 si tu n'es pas revenu.
Dites donc, messieurs, mais qu'est-ce que vous faites?
Papy Colomb.
En fait, on recherche Redouane Faïd.
Vous voulez jouer avec nous?
Non, merci, j'ai passé l'âge.
Bon, une fois, c'est pas nous qui l'avons dit.
Vous attendez quoi pour retrouver Redouane Faïd? Ma mise à la retraite?
Bah, c'est bientôt, non?
Mais je comprends pas, parce qu'on a déjà ratissé tout le Val d'Oise.
C'est tout.
Bah, c'est-à-dire que c'est quand même vachement grand, le Val d'Oise.
J'ai décidé d'augmenter les effectifs.
Oh, super. Alors, ça, on en avait besoin. De combien?
C'est une demande d'en haut.
Bah, voilà, ça, c'est une décision courageuse. Alors, combien?
De 1.
C'est pas énorme. C'est pas
beaucoup, hein. Je vous présente Alexandre.
Mais pourquoi? Il est de la police?
presque. C'est, en tout cas, il a fait ses preuves pour les méthodes musclées.
Non, attendez, c'est là que vous faites erreur, parce que la police, c'est pas que du muscle.
Hein. Ah bah non, c'est aussi beaucoup de flair.
Oui, oui. Enfin, sur l'affaire Faïd, j'ai l'impression qu'on a le nez bouché.
Mais c'était les vacances, hein, chef.
Oh, bah oui.
Surtout pour lui. Il a passé un bel été.
Bah oui, mais il fait rien pour nous aider.
Il nous a même pas envoyé une carte postale, rien de rien.
Quel goujat.
Mais il pourrait quand même nous tenir au courant par SMS, je sais pas.
Ok, il a bien fait pour les lycéens de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous n'allez quand même pas comparer Vauquier à un braqueur.
Disons qu'à un meeting Les Républicains, on pourrait le coffrer pour association de malfaiteurs.
Voilà, puis, non mais une fois, on a failli le choper, Faïd, c'était sur un parking d'un centre commercial.
Laurent Vauquier.
Non, Edouard Faïd.
Voilà, Faïd.
Qu'est-ce que vous foutiez là?
Alors, on attendait un collègue parce qu'il était parti s'acheter un livre.
Vous me prenez vraiment là pour une truffe. Écoutez, bougez-vous là, le gouvernement a vraiment besoin de lui maintenant.
Ah bon?
Pourquoi maintenant?
C'est quand même le grand spécialiste du prélèvement à la source.
Magnifique.
Écoutez, c'est bon. Impeccable.
Engagé.
Tout le monde ne s'est pas jeté dans son rôle comme vous.
C'est beau, c'était beau cet engagement. Merci beaucoup, Patrick Mille.
Au Dozane.
Ouais.
Patrick Mille, donc, c'était au théâtre de la Gaîté Montparnasse jusqu'au 6 janvier. Et je vous conseille la moustache si vous voulez vous poiler au théâtre. Alors, ça, c'est garanti. Une pièce de Sacha Judesco, Fabrice Dogneau, qui sont également sur scène avec Patrick Mille, aux côtés de Jean Benguigui et Pauline Lefebvre, dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. C'est du mardi au samedi à 21h et le samedi et dimanche à 16h. Merci beaucoup, Patrick Mille.
Merci à vous.
Et merci beaucoup, les amis. On se retrouve demain avec la romancière Maïlys de Kerangal. Et voici le mot de la fin qu'on laisse à l'une de nos auditrices interviewée par Guillaume.
Je l'écoute tous les jours sur A8 à la matinale. Là. Elle a un peu la grosse tête. Hein. Elle m'énerve.